pocket, and they're up there in control. Oh, oh, oh. They've got the world in their pocket. They can shake it, they can rock it, they can kick it for a goal. They've got the world in their pocket, but their pocket's got a hole. Unemployment is their glory. If a million children starve, why, that's an old familiar story. And there's rage and there's rebellion, and there's grief from pole to pole. They've got the world in their pocket, but their pocket's got a hole. Got the world in their pocket, 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 pocket. They've got the world in their pocket, and they're up there in control. They've got the world in their pocket. They can shake it, they can rock it, they can kick it for a goal. They've got the world in their pocket, but their pocket's got a hole. Takes a war to keep them perking, and they have to bleed the world to keep their bloody system working. But the system's self-destructing while they play that gangster role. They've got the world in their pocket, but their pocket's got a hole. They've got the world in their pocket, 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 pocket. They've got the world in their pocket, up there in control. They got the world in their pocket, but their pocket's not a hole.
C'est Malvina qui nous disait que nous avons le monde, ils ont le monde, mais c'est nous, bien sûr, le monde dans notre poche, mais que notre poche a un bien gros trou et le chômage, c'est leur gloire. Et même si 1 million d'enfants meurent de faim, c'est de toute façon une vieille histoire habituelle. Et il y a les révoltes quand même, il y a des misères d'un pôle à l'autre, mais tout ça, on sait bien, on a le monde dans notre poche, même s'il y a un trou. Alors, les conséquences de ces changements, entre autres les conséquences sur la santé des gens, Viviane, par exemple, avec l'introduction le fait que on autorise désormais pour tout le monde le travail de nuit.
Oui, parce que peut-être pour donner tout le poids à cette notion de compensation, pourquoi est-ce qu'on demande une compensation pour le travail de nuit ? C'est qu'en fait, le travail de nuit est nocif pour la santé et que c'est une contrainte supplémentaire très dure à supporter pour l'organisme, pour les gens et aussi dans la vie sociale. Et c'est pourquoi on pense qu'une compensation en temps pourrait éventuellement justement compenser ces effets négatifs. Alors, les effets négatifs du travail de nuit ou du travail tournant, parce qu'il faut bien dire, donc, dans notre système, on tourne. On fait une semaine la nuit, une semaine le matin, une semaine l'après-midi, etc. Il n'y a pas donc de travail de nuit constant, hein, parce que ça, c'est encore un autre problème. C'est que, alors peut-être il faut faire un petit détour par la physiologie. C'est qu'en fait, nous sommes des animaux diurnes et donc nous sommes faits pour vivre, pour être en activité le jour et dormir la nuit. Comme il y a des animaux nocturnes, si vous essayez de faire vivre une chouette la journée, ben, ça ne marche pas très bien. C'est la même chose pour nous. Donc nous, on a entre autres des rythmes biologiques, des rythmes qui fluctuent, par exemple sur une vie ou sur le mois, pour citer le cycle menstruel. Mais on a aussi des cycles, ce qu'on appelle circadiens, c'est-à-dire sur 24 heures, jour, nuit. Et ces cycles font que toutes nos fonctions physiologiques varient avec des maxima la journée et des minima la nuit. Et ce rythme est mis, si vous voulez, est synchronisé avec l'éclairement. Comme les poules qui, dès qu'il fait nuit, vont dormir, c'est physiologique. Ben, nous aussi, on a des comportements physiologiques de ce genre, auxquels s'ajoute en plus la vie sociale telle qu'elle est organisée, qui est organisée pour que les activités, la famille, le sport, etc., soient sur une marge dans la journée et que la nuit soit faite pour dormir ou éventuellement, je ne sais pas, pour faire l'amour, par exemple, pourquoi pas. Mais en tout cas, pas pour travailler. Donc, travailler au moment où nos rythmes biologiques nous disent que non, on devrait dormir, c'est un coût physiologique important. Donc ça, ça représente une surfatigue très très importante. Alors, elle n'est pas telle qu'elle détectable. Aujourd'hui, on ne peut pas dire si un médecin du travail va faire une enquête chez les travailleurs de nuit. On ne le voit pas énormément parce que, bon, il faut savoir qu'il y a des effets de sélection, il y a que les gens qui supportent qui restent, etc. Et puis aussi, la nuit, il y a des travaux de nuit. Hein. Ce n'est pas la même chose de dormir à moitié quand on est contrôleur aérien parce que de toute façon, la nuit, il ne se passe rien ou d'être devant un écran à surveiller. À attendre, ou d'être pompier à attendre un éventuel feu qui n'arrive pas, que d'être dans une usine en train de fabriquer des pièces, ou d'être infirmière, ou d'être flic, etc. Donc ça aussi, ça va modifier les effets du travail de nuit. Mais en tout cas, la plupart des gens et la plupart des médecins peuvent voir qu'il y a des effets, surtout sur le sommeil. Parce qu'il faut dormir la journée, et on dort mal la journée. On dort mal et donc ce qui fait que le temps de sommeil est très raccourci, il est de 5 heures environ pour les gens qui travaillent de nuit, et puis avec un sommeil très mauvais, entre autres on fait très peu de rêves, alors que les rêves c'est essentiel pour la récupération. Et puis si en plus on a une famille, ça devient de plus en plus dur. Parce que et si on est une femme, c'est encore plus difficile. On sait que les femmes qui ont des enfants, elles dorment encore, elles dorment 3h30 en moyenne.
Parce qu'il y a des tâches à assumer, bien évidemment, qui n'attendent pas la compensation.
Et puis surtout, il faut savoir que dans une famille où c'est l'homme qui travaille de nuit, il y a un effet sur toute la famille. C'est-à-dire toute la famille s'organise pour le père, pour le mari. Alors, par exemple, on dit aux enfants de se taire. Il y a vraiment le syndrome de la famille de nuit. C'est-à-dire que les enfants ne peuvent pas jouer. Les petits-enfants ne doivent pas faire du bruit quand papa dort ou la femme prépare à manger à n'importe quelle heure du jour pour quand il se réveille, c'est le petit déjeuner, puis à 3h, c'est le souper, etc. Alors ça, ce soutien familial, il n'existe pas pour les femmes, bien sûr, vraiment très très rarement. Ce qui fait qu'effectivement, ben, les enfants font du bruit, il faut les amener à l'école, etc. etc. Ce qui fait que elles récupèrent, les femmes qui ont des enfants et qui travaillent de nuit récupèrent beaucoup moins que les hommes ou que les femmes qui n'ont pas d'enfants. Alors ces problèmes de sommeil ont des conséquences à la fois par exemple sur l'humeur, les gens sont irritables et parfois tombent dans des dépressions et où aussi il y a des problèmes digestifs qui peuvent aller jusqu'à des ulcères. Alors ça c'est un espèce de tableau clinique que pas tous les travailleurs de nuit n'ont, mais qui est assez constant, surtout chez les gens qui ne supportaient pas le travail de nuit et qui sont partis, ou chez les retraités. Et on pense, si on faisait des études un peu à long terme, on tend à dire par exemple l'espérance de vie des gens qui ont travaillé de nuit diminue. Donc vraiment, c'est un effet très très fort sur la qualité de vie, sur la santé. La qualité de vie, encore plus généralement, c'est que pour les gens qui travaillent de nuit, leur vie sociale est vraiment très réduite. Elle est complètement inféodée aux horaires de travail, encore plus que pour les travailleurs de jour. Parce que comment voulez-vous... Alors, c'est exclu de faire, par exemple, une activité associative, que ce soit du sport tel que le football ou de faire partie d'une association. C'est exclu de faire de la formation hors du travail, parce que les cours du soir, etc. Et puis, les gens ne voient pas leurs enfants, ne voient pas leurs femmes, ne voient pas leurs maris. Donc, il y a énormément de divorces, etc. Donc, les gens le disent, on finit que par travailler et dormir. C'est tout. On peut rien faire d'autre parce qu'on est tellement fatigué qu'à la fin, pouf, on dort. Il y a aussi quelque chose que j'aimerais soulever par rapport à ce travail de nuit tel qu'il est d'ailleurs pratiqué aujourd'hui. Souvent, les horaires sont faits de telle façon que est compté comme temps de repos le temps où on dort. Alors que le temps où on dort, c'est pas du temps de repos. C'est pas du congé, c'est du temps où on dort. C'est comme si nous on disait, eh bien, on travaille le jour et puis la nuit on a congé. C'est pas vrai, la nuit on dort. Ça fait partie de notre semaine de travail. Et puis quand on a congé, c'est le week-end, on n'a rien. Alors que dans le système aujourd'hui des rotations, comme il est calculé, comme il est souvent organisé, est compté comme temps de congé les 12 heures après la nuit où on doit dormir. Donc, en fait, les gens entrent dans un cycle. Alors, il y a des gens qui apprécient ces horaires, c'est vrai, mais ce sont des gens assez spéciaux, la plupart du temps très solitaires, qui aiment la solitude, en fait. Alors, effectivement, ils sont contents comme ça. Bon. Mais c'est pourquoi cette compensation, elle est essentielle. la seule manière de réduire les effets négatifs, c'est d'aménager des conditions de travail et de réduire absolument le temps de travail. C'est ce qui se fait en France, par exemple, où les gens qui travaillent de nuit travaillent 35 heures. Et je crois qu'en Allemagne, c'est 32 heures. Donc là, on peut entrer en matière sur cette dérégulation. Mais ils ont 48 heures ou même 50 avec les heures supplémentaires. C'est absolument inimaginable.
Mais 35 heures, Viviane, ça veut dire quoi? C'est parce que fondamentalement, ça change pas le problème de finir ta nuit à 4h ou 5h du matin, je suppose. Mais c'est plutôt des jours qu'on donne après de libre, c'est-à-dire que c'est pas, qui te permettent de vivre une vie de famille, patate et patate, tout ce que tu as dit.
Ça dépend des industries, ça dépend des besoins des industries, ça dépend de la concertation. Il y a, par exemple, dans les centrales nucléaires, de plus en plus, on fait travailler les gens 12 heures de suite. Il y a des postes de 12 heures, alors ils font 3 fois 12 heures, puis c'est tout. Dans des hôpitaux aussi, parfois, ça se passe comme ça, puis parfois c'est 5 fois 6 heures. Enfin, ça, c'est vraiment.
Nouveau, c'est dicté par un intérêt de l'entreprise et pas réellement par compenser des conséquences nocives du travail.
Ça dépend. Disons, il y a un accord, il y a une concertation, une consultation qui se fait. Et en Allemagne, par exemple, on introduit ces horaires. Il y a vraiment de plus en plus les gens. Je crois que ça commence à passer un petit peu, en tout cas dans une certaine secteur, dans certains secteurs du travail, que s'il n'y a pas d'accord ou de discussion préalable pour faire accepter un horaire avec les gens qui travaillent, ça ne marche pas. La seule manière, c'est de discuter, de montrer, d'essayer, de faire essayer, ça marche comme ça, non, ça ne marche pas, alors on modifie, etc. Et là, il y a un autre aspect dont on n'a pas parlé qui est important, parce que le temps de travail, on pourrait aussi imaginer la compensation sous forme d'une retraite très très tôt. Parce qu'on sait que ces horaires-là, ben, on le voit bien sans parler de travail, par exemple les jeunes, ils arrivent à faire la foire, à partir de 40 ans, 45 ans, ça commence à être difficile, une nuit blanche, elle est difficilement récupérable. Ben, pour le travail de nuit, c'est encore plus grave. Les jeunes, à la limite, ils arrivent à tenir le coup, mais après 40 ans et après 50 ans, c'est impossible. Alors, il faut effectivement introduire, on peut dire, la compensation, c'est qu'à 50 ans, on a la retraite, par exemple. Et pour en venir au problème de la loi, la révision de la loi qui sera refusée, j'en suis sûre, et du travail de nuit des femmes, c'est qu'on mettrait aujourd'hui des femmes qui ont peut-être plus que 40 ans, qui n'ont jamais travaillé de nuit, tout à coup elles devraient se retrouver à travailler de nuit. Mais ça va faire un véritable problème. C'est-à-dire que les personnes qui ont travaillé de nuit depuis 20 ans, elles se sont construites une vie, un équilibre, peut-être en fonction de ces horaires, mais commencer à 40 ans de le faire, ça va vraiment être très très difficile.
Évidemment, l'argument des patrons qui dit vous pourrez choisir l'horaire que vous voudrez à votre convenance.
Ça, je rigole.
Tu n'es sûrement pas la seule. Mais alors, comment oser utiliser le prétexte de l'égalité pour justifier la suppression de l'interdiction du travail de nuit? Parce que ce qui faisait les raisons du travail de nuit à l'époque, je suppose, existe toujours. Le fait que, par exemple, une femme doit s'occuper de ses enfants et forcément 2 jours et pas la nuit. Et on ne peut pas dire, ah ben, ok, elle travaille la nuit, comme ça elle peut s'occuper des enfants 2 jours. Hein. On imagine mal la double journée de travail répartie ainsi.
L'interdiction du travail de nuit des femmes dans l'industrie, elle date du 19e siècle. Je crois qu'elle a été votée en 1889 en Suisse, hein, je crois que c'est ça, quelque chose comme ça. En France, c'était
1889,
dans, en France, c'était dans les années 60 aussi. Alors, moi, je me suis un petit peu intéressée à savoir pourquoi les arguments à l'époque qui ont amené à cette interdiction. Et à mon avis, fondamentalement, c'était des arguments protectionnistes. C'est-à-dire, d'un côté, de toute façon, les femmes ne devaient pas aller bosser en usine. Ce n'était pas bien. C'était contre leur rôle naturel de mère. Et donc, elles devaient. Mais si elles bossaient, en tout cas, pas la nuit, parce que alors, la nuit, en tout cas, elles doivent être à la maison, elles ne doivent pas être dehors. Et ça, c'était un argument. Il y avait vraiment cette force moraliste de dire la place des femmes, c'est à la maison et la nuit surtout. Et puis, on ne sait jamais ce qui se passe. Il y a des... Je ne sais pas si on l'isola, on voit bien qu'il y a toute une série de fantasmes autour de cette femme qui travaille, qui est libre, qui aurait une sexualité frénétique, etc. Donc, il y avait ces images qui tournaient autour du travail de nuit des femmes, en tout cas dans l'industrie, parce qu'on n'a jamais contesté qu'elles puissent travailler à l'hôpital, par exemple. Et du côté des syndicats qui voulaient interdire le travail de nuit des femmes, il y avait à mon avis aussi une attitude très paternaliste, pour ne pas dire phallocrate, de protection de l'emploi masculin et des métiers masculins. Les syndicats au 19e étaient tout à fait contre le travail de nuit des femmes. C'est vraiment les femmes féministes dans le syndicat qui ont poussé à la roue pour que ça soit reconnu. Mais il y avait des discours assez sexistes parce que les femmes, elles cassaient les prix. Bien sûr, elles étaient engagées comme aujourd'hui, à moindre prix. Et puis, elles cassaient le métier aussi. Donc, cette interdiction allait dans le sens de dire, bon, on ne peut pas complètement renvoyer les femmes des entreprises, mais en tout cas, on leur interdit certains secteurs, certains métiers, et on leur interdit le travail de nuit. Moi, je dirais que l'interdiction, elle était autour de ces deux pôles protectionnistes. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire autre chose ? Par rapport à l'industrie, moi je reviendrai sur le fait que c'est moins sur le sexe que sur le type de travail qui est fait. Il y a des travaux qui ne devraient pas se faire la nuit, peut-être qu'ils ne devraient même pas se faire le jour, mais en tout cas la nuit, ils ne devraient pas se faire. Et les travaux industriels à forte cadence, avec une forte charge mentale, travaux répétitifs, etc., ça, la nuit, ne doivent pas se faire, parce que c'est des travaux à très forte contrainte et on ne peut pas les faire de nuit. C'est vraiment totalement absurde d'un niveau, si on considère la santé. Et donc, c'est dans ces fonctions-là qu'on trouve la majorité de femmes dans les entreprises. Moi, je serais plus pour dire interdisant ce type de travail qu'interdisant le travail de nuit pour les femmes. Parce que de fait, on le voit bien que dans certains secteurs, le travail de nuit des femmes est totalement autorisé. Hein. J'ai parlé des hôpitaux, mais je pourrais parler des bars, etc. Donc, moi, je serais plutôt dans cette direction. Je ne sais pas si Valérie est d'accord avec moi ou pas.
Oui, tout à fait, parce qu'en fait, ça part du principe qu'il faut rentabiliser les machines au maximum. Et évidemment que ça ne tient pas compte des principes que l'on souhaiterait défendre pour les êtres humains. Donc, c'est vraiment l'économie qui est au centre et pas l'individu. Et puis, effectivement, dans les travaux peu ou pas qualifiés, c'est vrai qu'on retrouve une majorité de femmes. Donc, de fait, il va y avoir, disons, l'intérêt des industriels pour le travail des femmes est assez évident de ce point de vue-là. Et ce, d'autant plus qu'on sait qu'en règle générale, les femmes ont des salaires inférieurs aux hommes. Et en moyenne, pour le rappeler quand même, en Suisse, en moyenne, il y a une différence de 30% entre les salaires des hommes et celui des femmes. Donc là, je crois qu'il y a, une évidence. Donc, en quelque sorte, c'est essayer d'imposer une égalité formelle, alors que dans les faits, l'égalité n'existe pas. Donc là, ça, je crois que c'est assez important de le dire. Et pour surenchérir, si en effet le travail de jour se termine à 23 heures, si l'on autorise 500 heures supplémentaires et si on peut travailler la nuit, il est évident qu'au vu de la répartition des tâches entre les hommes et les femmes actuellement, ça risque de provoquer des situations quand même très, très, très difficiles. Par ailleurs, ce qu'il faut aussi préciser, c'est que cette révision prévoit que les mères enceintes ne peuvent pas travailler la nuit à partir de la huitième semaine avant l'accouchement et les huit semaines qui suivent. Alors, ça veut dire également que cette loi prévoit à ce moment-là qu'on doit leur fournir du travail de jour et que si elles ne peuvent pas assumer ce travail de jour, on leur donnerait un salaire à 80%. Alors évidemment, c'est de nouveau consacrer une inégalité dans la loi, puisque de fait, le simple fait d'être enceinte nous fait perdre notre revenu. Donc ça, c'est de nouveau un principe assez contraire à l'égalité des droits. Et puis, par ailleurs, donc, il est également prévu que pour les femmes qui auraient un certificat médical, donc des femmes enceintes qui auraient un certificat médical, ce système serait également appliqué. Donc ça va évidemment avoir des incidences importantes, y compris sur le salaire des femmes en particulier.
Vous êtes toujours dans Remue Ménage, Onde Femmes Radio Zone 93.8 et en compagnie de Valérie Boux du syndicat interprofessionnel des travailleurs. Je paf, c'est encore une note de social studies de notre chère Carla Blay qui nous interrompt. Donc je disais en compagnie de Valérie Boux du syndicat interprofessionnel des travailleurs et de Viviane Guenic,
travailleuses.
Des travailleuses, oui, travailleurs, travailleuses, TT. et qui, dans le cadre d'une recherche sur le travail de nuit, non, dans le cadre du Fonds national de la recherche scientifique, a fait une recherche sur le travail de nuit, eh bien, nous évoquons la loi sur le travail, votation du 1er décembre prochain pour tous les citoyennes et citoyens suisses. Valérie, tu voulais ajouter quelque chose à propos justement de ces tentatives de protéger les femmes de ces changements. Mais apparemment, le but des syndicats, ce n'est pas seulement de protéger les femmes.
Non, bien sûr, ce que l'on relève, c'est que cette loi va avoir des incidences particulières au vu de la situation des femmes aujourd'hui. Donc, vont péjorer leurs conditions de travail, mais elles vont aussi péjorer l'ensemble des salariés, hommes et femmes. Et donc l'objectif que les syndicats poursuivent, c'est un renforcement de la protection pour les femmes comme pour les hommes. Donc là, maintenant, on a une systématique en Suisse. Cette révision, elle va avoir des incidences sur les femmes au nom de l'égalité. On l'a vu précédemment avec le relèvement de l'âge de la retraite des femmes. C'est aussi la même chose, c'est-à-dire qu'on va petit à petit profiter d'un prétexte de l'égalité des droits pour diminuer les protections et les conditions sociales. C'est la même chose lorsque on souhaite l'instauration d'une assurance maternité. De nouveau, c'est un refus patronal, alors que on a une affaire particulière. C'est vrai que ce sont que les femmes qui mettent les enfants au monde, et puis ça changera pas. Donc il est évident qu'il faut trouver des protections qui leur sont spécifiques, mais l'important, et avec cette loi sur le travail en particulier, l'important, c'est de renforcer la protection des travailleurs et des travailleuses, des deux.
Oui, parce que si on fait des protections spécifiques aux femmes, et en dehors du cas de la femme enceinte, qui est un cas très particulier, parce que finalement, on n'est pas enceinte longtemps dans notre vie. Hein. Si on a deux enfants, au maximum, on est enceinte 18 mois. Donc, on ne peut pas non plus inférer toute la vie des femmes au fait d'être enceinte. Il y a des femmes aussi qui ne sont pas enceintes, qui n'ont pas d'enfants. Donc, il faut, à mon avis, distinguer le cas de la femme enceinte du cas des autres. Et à mon avis, toute loi protectionniste des femmes en général va contre les femmes, parce que premièrement, elle impose que il y a un modèle particulier, il y a un modèle général qui est celui de l'homme, et que les femmes, c'est un cas particulier, alors que c'est pas le cas. Il y a des hommes et des femmes avec des particularités à certains moments de leur vie, mais sinon c'est l'ensemble des gens qui travaillent qui doivent être protégés par la loi et par les conventions collectives.
Alors, il est un des points qui sera transformé dans la loi, c'est l'autorisation donnée pendant 6 dimanches par année de travailler justement le dimanche. Or, il y a un grand holà pour certains. Est-ce que vraiment on a le droit de rompre le repos dominical, ce repos qui était à l'origine un jour chômé, imposé, donc on n'était pas payé, même si on voulait travailler, on ne pouvait pas, et tout ça par obligation religieuse. Ce n'était pas du tout réellement un jour de repos accordé aux travailleurs. Alors, quelle est la position des syndicats sur ce dimanche remis en cause, à part la déréglementation dont tu nous as parlé tout à l'heure? Mais est-ce que ça vaut la peine de se battre pour que ce soit le dimanche, le jour de repos?
Oui, donc je crois que ce qu'il y a de particulier, c'est qu'en effet, la majorité des personnes qui ont un emploi rémunéré sont inactives le dimanche. Alors faire des exceptions dans le commerce, en fait, c'est bien le problème. La question, c'est de savoir si oui ou non nous voulons une vie dans laquelle il est possible de consommer 24 heures sur 24, y compris le dimanche. Donc au fond, c'est vrai qu'on rejoint en quelque sorte l'argument principal des églises qui s'opposent à cette loi, mais plutôt sous le label non au culte du travail.
Une société où on ne passe pas son temps à consommer, à travailler.
C'est ça.
Et puis je pensais bien qu'il y ait un jour où personne ne travaille, à part quelques exceptions. On l'a dit, bien sûr, il y a toujours des secteurs qui travaillent. Mais un espèce de souffle, comme ça, un rythme, je pense que c'est important.